Bonjour Patrick Boyer. Oui, aujourd'hui, c'est pas seulement l'anniversaire de la disparition du général de Gaulle, mais aussi celui d'une nouvelle que nous apprenions il y a 15 ans, jour pour jour.
Émotion et consternation après la mort d'Yves Montand, terrassé hier par une crise cardiaque. Il était un témoin engagé de son temps, mettant son rayonnement au service de ses convictions.
Il nous a fait beaucoup rire, pleurer, il chantait bien, il avait toutes les qualités, quoi.
Ans d'histoire. Le 9 novembre 1991, il y a 15 ans exactement, à quelques minutes près, Yves Montand tirait sa révérence à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière en manquant pour la première fois un rendez-vous avec son public, un dernier récital prévu 6 mois plus tard à Bercy. Mais si, 15 ans après, on ne l'a pas oublié, c'est qu'il a incarné mieux que d'autres, sur scène et au cinéma, par ses engagements et ses contradictions, un demi-siècle d'espoir et d'illusion, de souffrance et de joie partagée, avec les Français qui, au lendemain de la Libération, découvraient un curieux bonhomme. Il s'appelait Yves Olivi, et il était venu d'Italie à Paris pour y devenir Yves Montand.
Yves Montand fait ce soir sa rentrée au Music Hall, de l'Étoile. Il est toujours aussi grand, il n'a pas perdu son sourire. Faites votre rentrée ce soir.
J'ai pas besoin de vous dire que j'ai un trac terrible, parce que c'est vrai, je crois que ça se sent assez.
Nous, mais ça se voit pas beaucoup quand même. Vous savez, vos chansons à succès, oui, en somme, qui sont les principales?
J'ai gardé La Grande Cité, ce monsieur-là, Ella, Battling Joe, enfin, il fait des...
Battling Joe, la chanson qui fait peur d'ailleurs à Marcel Cerdan, avec des certains journalistes. Vous le connaissez?
Oui, il sera là ce soir, il est toujours là.
Il sera là ce soir, oui. C'est dommage qu'on l'ait pas eu autour du micro. Ouais.
Dans un village noir de charbon, dans les cheminées et les corons, tout petit, il battait ses copains, il était fier de ses deux coins, presque autant que son père le mineur, qui disait ça fera un boxeur. Le jour de son premier combat, fallait un nom, la n'avait pas. Comme la mode était à l'anglais, il s'appela Battling Joe. Battling Joe. C'était un peu démesuré pour un gosse aux épaules étroites, mais qui avait une méchante droite. Le Battling Joe, il gagna son premier combat, et le soir même avec papa, il prenait le train pour Paris, où un boxeur, ça vaut son prix. Battling Joe.
C'était Yves Montand, Music Hall de l'Étoile en 1946, avec un de ses premiers grands succès. Philippe Croc et Alain Guyacquenin, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans un beau livre sur Montand, publié chez Albin Michel, vous rappelez la carrière du chanteur, du comédien, mais aussi de l'homme engagé qu'était Montand. Et puis aussi, ce qui est moins connu, les premières années de sa vie, qui commencent en Italie, où il est né en 1929. C'est bien que le chanteur qui va triompher en France et représenter la France à l'étranger, eh ben, c'était un Italien, c'était un immigré.
Oui, effectivement, c'était un immigré dont le père était venu quelque temps auparavant en France, traversant les Alpes pour fuir le fascisme italien, et qui a fait venir ensuite sa famille. Mais ce qui est amusant, c'est qu'il était immigré en France, mais normalement, il aurait dû être émigré aux États-Unis, puisqu'à l'origine, le père de Yves Montand, le père Livy, voulait aller s'installer aux États-Unis. Et lorsqu'il est arrivé à Marseille, il a appris que les quotas d'immigrés étaient terminés pour les États-Unis et que donc il n'avait plus d'autre choix que de rester à Marseille.
C'est par hasard, hein, au fond, que Montand est devenu français. Tout il deviendra fait, ouais. un peu plus tard. Donc ils vivent à Marseille. Alors là, le jeune Livy, dès l'âge de 11 ans, parce qu'évidemment ils sont fauchés, fait tous les métiers. Yves Olivi travaille dans une fabrique de pâtes. Il est manœuvre, livreur, serveur, coiffeur. Il chante en faisant des shampoings. Et d'ailleurs, c'est à Marseille qu'il découvre à peu près en même temps, au fond, ses deux grandes passions qui deviendront deux carrières, c'est-à-dire le cinéma et la chanson, Alain Guyacquenin.
Oui, en réalité, si vous voulez, au départ, c'est un grand fan de cinéma. Lui, il rêvait de devenir Fred Astaire, quelque part. Et il essayait, d'ailleurs, paraît-il, d'imiter les pas de danse de son idole. Et puis, il était aussi grand fan de western. Il gardait, au lieu de prendre l'autobus ou le tramway, il économisait l'argent pour se payer des places de cinéma. Donc, sa vraie, vraie grande passion, c'était le cinéma. La chanson est venue un petit peu par hasard, on va dire.
Alors, quand même, elle arrive parce qu'il va dans un cafconce tenu par un certain Francis Trotobas, dit Berlingot. C'est Berlingot, je crois, qui lui dit de changer de nom, hein, Yves Olivier. Ça va pas. Et c'est comme ça qu'il est devenu Yves Montand. Pourquoi ce nom?
Ben, il devient Yves Montand parce que, justement, au moment où il lui faut changer de nom, il lui revient en mémoire la phrase que sa mère lui lançait tous les soirs quand il traînait un peu en bas de l'immeuble avec ses copains, qu'elle lui disait « Ivo monta », puisqu'elle lui parlait en italien, « Viens dîner », qu'il venait pas, qu'elle lui répétait, etc. Et au moment où Berlingot lui dit « Tu sais, Ivo Livi, c'est pas terrible », là, il se dit « Ben voilà, Yves Montand, Ivo monta ».
Et voilà. Et alors, il se fait remarquer dans le grand music hall de Marseille, l'Alcazar, avec une chanson qui était écrite pour lui par un parolier aveugle, je crois, qui s'appelait Charles Hummel, dans les plaines du Far West. Et là, c'est son premier succès. Il se produit même, d'ailleurs, je crois, déguisé en cow-boy. On le voit en photo dans votre livre.
Oui, effectivement. Il était allé voir Charles Hummel, qui était un pianiste aveugle. Et il lui avait dit, moi, j'adore les westerns. Est-ce que tu pourrais me faire une chanson qui corresponde à ça? Donc, il l'avait fait dans les plaines du Far West. Et déjà, on voit qu'il y avait un certain goût et un certain talent de mise en scène chez Montand, puisque effectivement, il arrive sur scène avec une chemise à carreaux de cow-boy, un foulard autour du cou, un chapeau en carton qu'il a passé à la peinture blanche, et il fait son numéro de cow-boy imitant ce qu'il a vu dans les westerns, et là, c'est le triomphe.
Alors, ça marche, on le demande comme vedette américaine dans des spectacles qui vont le conduire dans plusieurs villes de France, et à Paris, en 1944, date de sa rencontre à l'ABC avec celle qui sera son Pygmalion et qui va faire de Montand à la fois son amant et une vedette, le début d'une complicité qui allait durer 2 ans.
Mes chers auditeurs, nous avons le grand plaisir d'avoir en notre studio la grande vedette de la chanson, Edith Piaf. Nous allons, si vous le voulez bien, lui poser pour vous quelques questions très indiscrètes. Mademoiselle Piaf, êtes-vous heureuse d'être à Nîmes?
Alors, il y en a pour toi ici. Je vous jure, c'est là quand elle a le micro, elle n'est pas prête de le lâcher.
Non, mais de quel droit me parlez-vous sur ce ton? Qui êtes-vous?
Qui suis?
Oui.
Moi, je suis Yves Montand, la grande vedette bien connue.
Ouais. Ça pourrait être grand, tu es grand, hein, ouais. 1m85, ça, faut bien le dire. Je disais donc que je vais vous parler de ma carrière.
On n'est pas prêt d'aller dîner, moi, je vous le dis.
Alors, je vais vous présenter mon grand camarade Yves Montand dans son répertoire. Tu viens?
Oui.
Au revoir. Et maintenant, chers auditeurs, une chanson qu'Edith Piaf a écrite pour Yves Montand, Mademoiselle Sophie, sur une musique de Jean Norbert.
Du temps de votre vie, vous vous appeliez Sophie, et vous étiez jolie.
Mademoiselle Sophie, chanson oubliée d'Yves Montand, écrite par Edith Piaf. C'est elle qui lui a mis le pied à l'étrier. Est-ce que vous connaissiez cette archive, Philippe Croc? Je sais que vous préparez un livre sur Edith Piaf et vous connaissez bien Edith Piaf. C'est étonnant, cette espèce de sketch entre les deux.
Je connaissais cette archive, mais je ne l'avais jamais entendue. Il faut dire qu'elle est difficile à entendre aussi. Mais je crois qu'elle n'a jamais été éditée. Hein.
Non. C'est une des trouvailles qu'on trouve, nous, à l'INA. On a beaucoup de chance parce qu'il y a des trésors comme ça. C'était son Pygmalion. C'est un peu grâce à elle, qui était infiniment plus connue que lui, qu'il est devenu lui-même célèbre.
Mais ils ont eu des débuts difficiles. Mais il devait passer en première partie d'un spectacle où elle avait la vedette, et puis elle ne le trouvait pas très bien comme chanteur. Elle trouvait qu'il ressemblait à un moulin à vent, parce qu'il avait les mains partout, donc elle lui a dit de mettre ses mains dans ses poches, etc. Mais il était beau garçon, je pense que ça a été assez décisif.
Elle appréciait plus l'amant qu'il allait devenir que le chanteur.
Disons l'homme. Et puis en plus de ça, son répertoire, elle ne l'appréciait pas beaucoup. Il chantait un répertoire un peu méditerranéen. Et puis les plaines du Far West, elle aimait pas non plus.
En tout cas, ils vont se quitter au bout de 2 ans. Il n'a plus besoin d'elle non plus. C'est elle, je crois, qui s'en va pour un compagnon de la chanson. Lui-même, il triomphe à l'Étoile en 45, en 46, on l'a entendu. Au cinéma avec Carné, mais c'est un peu un échec. Les Portes de la Nuit, hein, son deuxième film, je crois. Et puis alors, cela dit, il va faire une rencontre déterminante. C'est en 1949, la rencontre avec une grande vedette du cinéma. C'est Simone Signoret, Alain Guillaume.
Oui, alors Simone Signoret, effectivement, il la rencontre à la Colombe d'Or, où se réunissent souvent des artistes, la bande à Prévert, etc. Il est là entre deux galas dans le sud de la France, et il voit cette femme qui était d'une beauté absolument merveilleuse, et là, instantanément, il en tombe amoureux. Elle est toujours mariée avec Yves Allégret, ce qui pose quelques problèmes, mais c'est une femme de caractère, donc le jour où Yves Allégret doit venir la rejoindre, elle va l'attendre sur la route et elle lui dit « Écoute, voilà ce qui se passe, et je vais vivre avec mon temps », car elle a décidé de l'appeler Montand pour ne pas qu'on confonde les deux Yves, Yves Allégret et Yves Montand.
Alors c'est quelque chose qui va durer, ça. En revanche, un coup de foudre, un réciproque, vous le dites, Alain Guillectin, dans ce livre. C'est aussi quelque chose de très important. Elle va le faire rencontrer, elle va le présenter à des milieux qu'il ignorait un peu, les milieux intellectuels et même politiques. Ça, c'est en ça que ça change. Le cinéma, il connaissait déjà, mais la politique, non.
Effectivement, on peut dire que si Piaf a été son pygmalion dans la chanson, Simone Signoret a été son pygmalion pour tout ce qui concerne le plan culturel, politique. Elle l'a guidé dans ses lectures, elle lui a fait rencontrer des intellectuels, elle lui a inculqué des notions politiques qui étaient les siennes et qui sont devenues celles de Montand par la suite, avec extrêmement de conviction. Donc effectivement, elle l'a vraiment façonné.
Plutôt à gauche, hein, ils vont signer ensemble l'appel de Stockholm, manifester contre le maccartisme, pour l'acquittement des époux Rosenberg, et puis ils sont très proches tous les deux du PC, à l'époque totalement inféodés à Moscou.
Voilà maintenant Simone Signoret et Yves Montand, mais je dois signaler que Simone Signoret a un ravissant béret de vison gris clair qui ressemble beaucoup à ces jolies anciennes coiffures russes que l'on voyait lorsque les femmes allaient à traîneau, c'est vrai, hein?
C'est vrai.
Alors Yves Montand, nous allons parler un petit peu de ce déjeuner qui vient d'avoir lieu entre... c'était la première fois que les acteurs français rencontraient les acteurs russes.
Eh bien moi je trouve ça formidable et je pense qu'on devrait faire ça beaucoup plus souvent, et aussi bien avec les Soviétiques qu'avec les Tchécoslovaques, qu'avec les Allemands, qu'avec les Américains, qu'avec les Anglais.
Ils vous connaissent bien, je crois, en Russie.
Oui, ils me connaissent beaucoup à travers le disque. D'ailleurs mon but est d'aller à l'Union Soviétique pendant 4 mois et tous les pays de l'Est, et ensuite vraisemblablement aller à New York.
Et vous, Simone Signoret?
J'irai surtout avec un grand plaisir pour accompagner mon mari et être la femme du monsieur qui chante, avec beaucoup de plaisir.
Le fusil tambour battant, il va. Il a 20 ans, un cœur d'amant qui bat. Un adjudant pour surveiller ses pas et son barda contre ses flancs qui bat. Quand un soldat s'en va en guerre, il a dans sa musette son bâton maréchal. Quand un soldat revient de guerre, il a dans sa musette un peu de linge sale. Partir pour mourir un peu à la guerre, c'est un drôle de petit jeu qui ne va guère aux amoureux. Pourtant, c'est presque toujours quand revient l'été qu'il faut s'en aller. Le ciel regarde partir ceux qui vont mourir au pas qu'à danser. Des hommes, il en faut toujours, car la guerre se fout des serments d'amour. Elle n'aime que le son du tambour. Quand un soldat s'en bat en guerre, il a des tas de chansons et des pleurs sous ses pas. Quand un soldat revient de guerre, il a simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine et puis voilà.
Quand un soldat, une chanson de Montand sur des paroles de Francis Lemarque, une chanson qui a fait scandale, hein, Guillectin. Je crois qu'elle a été interdite à la radio.
Oui, elle a été interdite à la radio parce qu'on l'a considérée comme antimilitariste. Et pourtant, c'est une très très belle chanson.
Mais en 1953, c'était Les Grains de Chine.
Oui, voilà. Donc l'époque était différente. Et puis, Montand avait commencé à exprimer des idées de gauche. Donc, il était très mal vu par toute une partie de la classe politique et même du public, d'ailleurs.
Il y a eu un voyage à Moscou. Il l'annonçait dans l'archive qu'on a entendu. Et il s'est produit en 1956. Il a rencontré les dirigeants soviétiques. Vraiment, il passe pour un compagnon de route du Parti communiste et même de l'URSS.
Ben, il l'est en réalité. Et il ne s'en cache pas, mais lorsqu'il part faire cette tournée à Moscou, il commence à se poser des questions. Il voit bien ces gens qui font la queue devant des magasins vides, ces vieilles femmes qui balayent les trottoirs, qui doivent s'écarter quand passent les voitures des apparatchiks. Et Simone lui fait remarquer tout ça, parce que quelque part, elle est un peu plus objective que lui, mais lui voit sans vouloir voir, en réalité, jusqu'au jour où, invité à dîner au Kremlin par Khrouchtchev et toute la nomenclatura, là il explose complètement et il dit à Khrouchtchev toutes ses désillusions finalement et toute sa colère. Ce qui fait bien rigoler l'autre qui lui dit, vous savez, nous on a vécu le stalinisme, alors tout ça à côté, c'est une plaisanterie, quoi.
En tout cas, ce voyage à Moscou va lui coûter cher, il est interdit aux États-Unis jusqu'au voyage qu'il y fait. En 1959, où le chanteur Montand triomphe à Broadway et l'acteur rencontre tout le gratin d'Hollywood, Kirk Douglas, Gary Cooper, Henry Fonda, Marlene Dietrich, Cary Grant, Gregory Peck, et puis la femme avec laquelle il va trahir, Simone Signoret. Il s'en expliquait 10 ans plus tard au micro de Jacques Chancel en 1969.
Yves Montand, est-ce qu'il vous est arrivé de faire de la peine à Simone Signoret?
Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Elle a été parfaite. Je voudrais pas revenir là-dessus, parce que ça me gêne, mais... Ouais, elle était très très bien.
C'est parce
qu'elle était intelligente aussi. Elle s'est rendue compte aussi que, bon, je vais encore employer ce mot un peu, j'avais certaines circonstances atténuantes, enfin quoi, parce que...
C'est parce que vous aviez succombé à la tentation?
Bon, mais c'est-à-dire que si j'avais pu l'éviter, je l'aurais évité. J'ai pas pu l'éviter, ben bon, j'ai pas pu l'éviter. Et je me demande d'ailleurs si un homme normalement constitué, sain d'esprit et de corps, aurait pu résister à rester 3 mois seul dans, bon, puisqu'on en parle, dans les bras de Mademoiselle Marilyn Monroe, ou simplement tourner avec Mademoiselle Marilyn Monroe, je crois pas, hein. Je crois que c'est difficile.
Détendez-vous.
Je suis désolé, je suis une...
Vous connaissez, n'est-ce pas?
Oui,
eh bien, répondez à ses avances.
D'accord.
Et quand vous arrivez à votre dernière ligne, vous l'embrassez. Fort, pensez à ce que vous faites.
Je vais faire de mon mieux.
Bon, allez, reprenons.
But oh, your arms are nice, and it would be awfully nice
if you turned out to be starry-eyed like me. And incurably romantic too.
Un extrait du milliardaire de Cukor. Alors Yves Montand, Marilyn Monroe dans ce film, ils ont fait couler beaucoup d'encre et même pas mal de vitriol. Alain Guy Aquenin, évidemment, on a reproché à Montand son aventure avec Marilyn.
Oui, on lui a largement reproché. C'était un peu hypocrite de la part de la presse, d'ailleurs, qui en même temps faisait ses choix de cette histoire et les suivait pas à pas. Bon, c'est vrai que Simone Signoret en a énormément souffert et il s'en est rendu compte. Mais, comme il le disait, il n'a pas pu résister. Cela dit, quelque part, c'est quand même une assez jolie histoire d'amour aussi entre cette star de Hollywood qui était quelqu'un d'extrêmement fragile et ce macho italien. Il y avait finalement une conjonction de vécu qui les attirait l'un vers l'autre.
Et puis vous m'aviez dit avant que cette émission commence qu'elle était amoureuse de lui, elle avait même en pensé se marier avec Montand.
Oui, effectivement. Ah. Bon, c'est lui qui a mis fin à la liaison parce que Simone Signoret apparemment était vraiment la femme de sa vie et qu'il voulait rester avec elle. Mais Marilyn, elle, l'aurait bien épousée.
Simone Signoret qui va lui pardonner, qui avec Montand va prendre ses distances avec le Parti communiste, sinon avec ses idéaux des années 1950. On écoute Yves Montand sur France Inter en 1970.
Fidèle, qu'est-ce que ça veut dire fidèle? S'il faut dire amen, alors je ne suis pas fidèle. Si vous me demandez si je reste fidèle à cette idée généreuse, oui, je reste fidèle. Sur ce point-là, je n'ai absolument pas changé. Je veux dire que cette chose généreuse dans laquelle nous avons cru, d'une façon naïve, vous voyez, là nous rejoignons la naïveté de tout à l'heure, et je ne suis pas le seul, n'est-ce pas? Et cette idée généreuse qui a fait bouger des millions d'hommes, on s'aperçoit qu'elle n'est pas aussi simple. Et que je ne peux pas, sous prétexte d'apporter, d'avoir, si vous voulez, cette fidélité au cœur, d'être obligé d'apporter fidélité à l'appareil d'un parti ou à un parti politique. Parce que les hommes sont faillibles.
Quel est mon rôle ? Vous savez très bien, mieux que personne, les hommes comme vous ont un nom. Quel est votre nom ?
Le parti connaît très bien,
mais pas le nom du parti.
Je vais voir un responsable.
Je vous fais avouer. Vous avouerez.
Au début, on cherche à aider le parti. Des années de lutte et de discipline, toute notre éducation nous portait à croire que le parti ne se trompait jamais, que l'URSS a toujours raison.
Dans cette affaire, nous ne sommes pas seuls. Nous avons des conseillers.
Combien de fois avons-nous dit, tout fiers de cette humilité, qu'il valait mieux se tromper avec le parti qu'avoir raison hors de lui.
Avouez ! Avouez vos crimes ! Vous devez tout avouer ! Avouez ! Mais avouez-moi !
Et c'était Yves Montand dans un de ses plus beaux rôles, celui d'Arthur London dans L'aveu de Costa Gavras en 68. C'est vrai qu'à l'époque, le cinéma prend le pas sur la chanson, Alain Guyguettin.
Oui, effectivement, là, il ne chante plus que très rarement. Il a entamé une carrière d'acteur avec énormément de succès, puisque avant L'aveu, il y a eu Z, enfin, il y a eu un certain nombre de films qui ont attiré énormément de monde. Mais je crois que L'aveu est quand même un film extrêmement important dans sa carrière, parce que c'est quelque part aussi une remise en question de sa part, et d'ailleurs à tel point que pendant le tournage il s'est quasiment mortifié, il s'est privé de manger, il dormait à même le sol, etc., pour se remettre dans les conditions qu'avait vécu Arthur London. Donc il cherchait peut-être quelque part à expier quelque chose.
Il n'est plus le compagnon de route du PC. Il va même aller assez loin d'ailleurs, il disait « J'ai perdu mes certitudes, mais pas mes illusions », c'est une belle formule de Montand. Cela dit, on le verra par exemple soutenir l'évolution libérale de François Mitterrand en 83 avec une émission qui a été très connue, qui s'appelait « Vive la crise ». Est-ce qu'à l'époque il était tenté par la politique?
Alors je crois qu'il était tenté par la politique. Si vous voulez, c'est vrai qu'il avait fait un certain nombre d'émissions de télévision qui avaient été très remarquées, où il était assez brillant d'ailleurs, et que certaines personnes lui avaient suggéré qu'il pourrait se lancer dans la politique. On avait même évoqué une candidature à la présidence de la République, rien que ça. Et lui a dit après, non, c'était une plaisanterie, j'ai jamais vraiment pensé, mais je ne suis pas persuadé qu'il avait pas une petite idée derrière la tête.
Et puis surtout, il préférait quand même le cinéma et puis la chanson pour laquelle il va être célébré dans le monde entier, et notamment à New York en septembre 1982, où il fait un triomphe au Metropolitan Opera, le Met, qui pour l'occasion, Montand chantait la chanson qu'il avait fait connaître à Marseille 45 ans plus tôt.
La première représentation devant 1000 personnes qui sont le personnel qui travaille au Met, ben vous avez des jambes qui ne vous portent pas. Tu rentres en scène et tu as là, vraiment, c'est une bête qui est dans le creux de l'estomac et qui est là et qui mord, quoi.
Anyway, here is my French cowboy song. I introduced it in 1938 in Marseille. And believe it or not, this tune was written by a blind man who, of course, never saw a cowboy in his whole life. Dans les plaines du Far West, quand vient la nuit, les cowboys près du bivouac sont réunis.
Alors c'était un triomphe, hein, cette tournée, il l'a faite aux États-Unis, il était en Amérique du Sud, il était à Tokyo. Vraiment, sur le plan international, un triomphe. Au Metropolitan, vous le dites, Alain Guyguettin, il faut rappeler, c'est le temple de l'art lyrique aux États-Unis. C'est la première fois qu'on recevait un chanteur de variété. Et c'était un Français, c'était Montand.
Oui, c'était un événement vraiment extraordinaire. Et la preuve en est que tout le gratin de Hollywood et du reste des États-Unis, de la politique, du cinéma, de la chanson, s'était déplacé pour le voir. Et ensuite, la tournée qu'il a effectuée dans le reste des États-Unis était tout aussi triomphale. Et puis après, Rio avec un stade où 15 000 personnes l'acclamaient, le Japon, enfin, c'est quand même assez extraordinaire, cette carrière mondiale. Pour quelqu'un qui finalement ne chantait qu'en français.
Oui. Et chantait épisodiquement, parce que c'était le cinéma souvent qui l'avait interrompu sa carrière de chanteur. C'est surtout pour ses chansons finalement qu'on l'a retenu. Alors ça, c'est les dernières années de sa vie marquées par la mort de Simone Signoret, et puis une vie commune avec une jeune femme, toute jeune femme, Carole Amiel, qui lui donne un enfant alors qu'il a 67 ans. Il avait cette jolie formule: on ne refait pas sa vie, hein, quand on lui reprochait d'avoir oublié un peu vite, ce qui n'était pas vrai d'ailleurs, Simone Signoret, on ne refait pas sa vie, on la continue.
Oui, je crois qu'effectivement, il n'a jamais oublié Simone Signoret, qui est restée...
Il est enterré auprès d'elle, au Père Lachaise.
Oui, qui était resté quelque chose d'extrêmement important dans sa vie. Et donc, il avait fait la rencontre de Carole Amiel. Ils ont eu ce petit garçon, Valentin, qui est maintenant un grand garçon qui vient d'avoir 18 ans et qui mesure 1m92. Donc, il a dépassé son père, en taille, en tout cas. Et c'était, quelque part, un renouveau pour lui. Puis finalement, il n'avait jamais été père. Hein. Il avait adopté, effectivement, Catherine Allégret, mais il n'avait jamais été père biologiquement.
Alors il a continué jusqu'au bout. Hein. Il avait prévu un grand concert à Bercy en mai 92. Il meurt d'un infarctus en novembre 91, hein, il y a exactement 15 ans. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on aime encore Montand, se souvienne de Montand, il y a une nostalgie de Montand?
Ben, je crois que c'est quand même très très rare dans le milieu artistique français. Les hommes qui ont été à la fois des stars de la chanson, des stars du cinéma et dans une certaine mesure des stars de la politique. Ça fait quand même beaucoup pour un seul homme et je ne vois pas d'autres exemples du même genre.
Et on fredonne toujours ses chansons, je pense à l'une d'entre elles bien entendu, qui est sans doute la plus célèbre et qui était Les Feuilles Mortes.
Oui, alors
il y a une histoire cette chanson.
Oui, alors Les Feuilles Mortes c'est un peu sa carte de visite. Il avait commencé à la fredonner dans le film Les Portes de la Nuit. Et il l'avait trouvée tellement belle qu'il avait décidé de la mettre à son répertoire. Et il a fallu qu'il la chante systématiquement sur scène à chaque représentation pendant au moins 3 ans pour qu'enfin le public apprécie cette chanson. Comme quoi, à quoi tient un succès, hein.
Et on ne pouvait pas ne pas la mettre, justement, pour conclure cette émission. Une chanson dont il avait dit un jour, dans sa langue natale, que c'était celle qu'il préférait.
Quelle est la sua canzone preferita?
Les Feuilles Mortes, Les Folles Mortes. Vergi di Prévert e musica di Cosma.
La conosco, questa canzone è molto bella.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié, les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi.
Et Montand, le temps n'efface rien, c'est le titre du livre de mes deux invités aujourd'hui, Philippe Croque et Alain-Guy Aquenin. Vous avez pu entendre des extraits des films Le Milliardaire de Georges Cukor, disponible en DVD aux éditions 20th Century Fox, et L'Aveu de Costa Gavras en VHS aux éditions Atlas. Et maintenant, la suite de notre jeu concours France Inter Le Figaro pour jouer et gagner la collection complète de la grande histoire de l'art du Figaro. Répondez à la question sur notre sujet du jour. En 1962, Yves Montand a chanté Le Peintre, La Pomme et... Réponse 1, Matisse. Réponse 2, Picasso. Réponse 3, Braque. Pour jouer, appelez le 32-30, 34 centimes la minute, puis donnez votre réponse en suivant les instructions. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Vous trouverez aussi tous les détails de ce jeu et des renseignements sur notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique, Sébastien Royer et Clotilde Thomas. Documentation et archives sonores superbes. Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Catherine Louis. Une réalisation de Anne Kobilac.
Moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment. Tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.